Vivre FM, la vie des associations, podcast.
Bonjour Alexandre Duval-Stalla. Je ne sais jamais dans quel ordre. Stalla Duval, on dit ?
Duval-Stalla.
Duval-Stalla, ben c'est mieux, alors c'est parfait. Bonjour Alexandre, vous êtes le président de l'association Lire pour en sortir. Et puis bonjour Domicile La Roulière.
Bonjour,
j'ai pas écorché votre nom.
Non, c'est parfait.
C'est parfait, vous êtes la directrice générale de l'association. L'association, c'est Lire pour en sortir. En une à deux phrases, qu'est-ce qu'on peut dire de cette association, Alexandre Domici ?
Eh bien, en une phrase, c'est effectivement la réinsertion par la lecture des personnes détenues.
Mmh. Vous allez nous dire comment, vous agissez dans combien d'établissements pénitentiaires aujourd'hui ?
Alors, d'ici à la fin de l'année, on aura une dizaine d'établissements pénitentiaires.
Mmh. Ça croît et ça embellit, je ne vais pas dire de jour en jour, mais de mois en mois, ça va très vite. Hein.
C'est vrai qu'on a un succès grandissant et que de plus en plus, on a des établissements pénitentiaires qui nous demandent de venir dans leur établissement. Et puis ensuite, les personnes détenues sont de plus en plus nombreuses à entrer dans le programme de lecture.
Ça va très vite parce que je le disais, votre association, elle est née en 2014.
Voilà, en juillet 2014, oui. Hein et nous avons commencé à nous installer en fait en détention en juillet 2015. Et depuis, nous avons près de 600 personnes dans le programme de lecture.
Il y a une actualité qui concerne votre association, Lire pour en sortir ?
Alors, on a défini un nouveau programme parents-enfants qui permet effectivement, de lorsqu'un parent est en détention et que... les difficultés, bien évidemment, pour voir son parent en détention sont pas forcément très 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 faciles à vivre. Et du coup, nous avons trouvé un espèce d'objet qui est le livre qui permet de réunir les parents et les enfants et de justement parler d'une histoire autre que celle qu'a vécu effectivement le parent et qui se trouve en détention, et ce qui permet de renouer et en tout cas d'approfondir le lien avec l'enfant.
Parce qu'il y a un maître mot qu'on n'a pas encore dit, c'est le maître mot, c'est réinsertion. Hein. C'est pour ça que vous agissez.
Tout à fait. Et parfois, on parle peut-être mieux d'ailleurs d'insertion que de réinsertion, parce que pour beaucoup, ils n'ont pas eu encore les différentes étapes d'insertion, à la fois professionnelle, culturelle, économique, sociale et même scolaire.
En quelque sorte, grâce à vous et peut-être grâce à d'autres associations qui font d'autres choses sur le terrain, on remet les compteurs à zéro en quelque sorte.
Bah, on essaye de remettre effectivement à l'endroit ce qui a commencé à l'envers. Et donc effectivement, il y a beaucoup d'associations qui travaillent en milieu pénitentiaire et qui font cette œuvre nécessaire pour justement aider les uns et les autres à se insérer dans la société civile.
Donc votre actualité, c'est donc ce nouveau cycle parent-enfant, c'est ça ? Nouveau cycle de lecture.
Voilà, alors on a beaucoup d'actualités parce qu'effectivement, ça marche tellement bien que non seulement on ouvre de nouveaux lieux de manière régulière, on a de nouveaux cycles qui arrivent, de nouvelles rencontres culturelles qui arrivent également. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la grande actualité, c'est la mise en place de ce programme parents-enfants.
Ça se fait facilement, ça vous dites, on ouvre de nouveaux lieux. C'est presque un mot bizarre, hein, puisque on sait que vous allez dans les prisons. Donc bien sûr, vous n'ouvrez pas les prisons, mais vous ouvrez les prisons à la culture.
Voilà, on ouvre un peu les fenêtres, effectivement, à la culture et aux activités culturelles, c'est-à-dire une manière de vivre un peu différemment qu'une vie qui parfois... se vit comme une fatalité, en fait. La fatalité de la délinquance, la fatalité des difficultés sociales et économiques. Et du coup, c'est une manière, en fait, de leur expliquer qu'il y a une vie différente que celle qu'ils ont pu avoir jusqu'à présent. Et d'ailleurs, il y a un détenu brésilien qui a une phrase très juste. Il dit « Ce programme de lecture ne m'a pas simplement aidé à avoir des remises de peine supplémentaires, il m'a surtout aidé à devenir ce que j'aurais dû être ».
Ah, c'est une jolie phrase que vous pouvez, j'imagine, que vous redites assez souvent aux personnes détenues que vous visitez. Combien de personnes détenues visitez-vous jusqu'alors ?
Alors, nous avons aujourd'hui 600 personnes qui sont dans le programme, réparties sur à peu près 6 établissements où le programme est ouvert. Donc, on est à Châlons-en-Champagne, à Nice, à Fresnes, à Mont-de-Marsan. Versailles, Poissy, et donc d'ici à la fin de l'année, il y aura de nouveaux lieux encore qui sont
d'accord.
Ouverts.
C'est facile justement de s'adresser aux autorités pénitentiaires, c'est facile, j'allais dire, d'entrer dans une prison pour y instaurer, pour y inviter la culture.
Bah, nous avons la chance d'avoir l'administration pénitentiaire qui est extrêmement ouverte à toutes ces initiatives et qui nous a vraiment accompagnés, aidés et supportés dans l'ouverture de ce programme. Notamment M. Serge Canap, qui donc dirige la direction de l'insertion. Et puis Nathalie Faure aussi qui s'occupe de l'ensemble des activités culturelles sur l'ensemble de la France.
Alors, comment ça se passe quand on décide d'investir une prison et, comme je le disais tout à l'heure, d'y inviter la culture, d'y inviter la lecture? Comment ça se passe?
Nous faisons d'abord un premier rendez-vous où nous souhaitons rencontrer tout le monde, depuis le directeur de la prison jusqu'aux personnes détenues, en passant par les associations, par les surveillants qui sont déterminants et très importants et qu'on oublie parfois. Bien évidemment les services de pénitentiaire d'insertion et de probation, et donc nous réunissons tout le monde autour d'une grande table et nous présentons effectivement notre programme, la manière dont nous avons d'agir, en sachant que nous souhaitons nous ne pas prendre la place d'autres personnes, mais au contraire faire en sorte que toutes les énergies soient ensemble pour aider à l'insertion des personnes détenues.
Vous accompagnez ces détenus dans la réinsertion, parfois même dans l'insertion, comme vous le disiez tout à l'heure, mais il faut qu'à votre tour, vous soyez vous-même accompagné par les autorités. Il faut que vous fassiez corps avec ces autorités, j'allais dire.
En fait, c'est un vrai partenariat, c'est-à-dire que l'administration pénitentiaire a ses missions de service public. Et nous y avons une mission un peu différente, qui est une mission, j'allais dire, d'insertion culturelle, d'aide à la lecture. Je pense que vraiment, ce qui est très important, c'est ce triptyque éducation, culture, droit, qui permet effectivement à une société de vivre beaucoup plus librement et beaucoup plus sereinement.
Qu'est-ce qu'on peut lire en prison? Est-ce qu'il y a est-ce que quand vous avez proposé, je sais pas, les œuvres, d'ailleurs, on parlera peut-être des œuvres que vous proposez. Évidemment, on ne donnera pas les presque 300 titres que vous avez à disposition, mais on parlera peut-être de certains. Mais est-ce que d'ores et déjà, on peut dire qu'il pourrait y avoir des livres interdits qui ne pourraient pas circuler à l'intérieur de la prison, sans parler effectivement de livres, je sais pas, subversifs ou autres, évidemment, qui donneraient des recettes pour scier les barreaux de sa prison. Enfin bon,
Alors l'administration
est malvenue, hein, voilà. Bon, on imagine.
Mais l'administration pénitentiaire est assez ouverte et n'exerce aucune censure. Bien évidemment, nous sommes dans un programme qui de toute manière sont focalisés plutôt sur les romans, les essais et des livres qui sont hors, j'allais dire, du côté pratique. On fait pas de manuel de couture ou de choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de censure, aucune censure de la part de l'administration pénitentiaire. Je pense que on travaille tous pour faire en sorte que les personnes détenues puissent avoir accès à des livres intéressants et intelligents. Et là-dessus, la censure, bien évidemment, n'a pas lieu d'être.
Il y a un comité de lecture. Comment, justement, on décide qu'un livre serait tout à fait en capacité de, de faire voir aux personnes détenues des choses particulières, de leur faire, j'allais dire, s'évader au sens le plus littéraire du terme et imaginatif du terme.
Alors, effectivement, nous avons d'abord imaginé un fond, j'allais dire, de livres, qui reprend à la fois les grands classiques, mais aussi le théâtre, la poésie, la BD. On a vraiment voulu être très éclectique dans les choix de lecture. Et ensuite, chaque année, nous créons de nouveaux cycles, environ 4 à 5 nouveaux cycles. Donc, c'est des cycles de 12 livres pour couvrir l'année, c'est-à-dire en gros un livre par mois. Nous avons donc, pour l'année 2016, fait un cycle François Mitterrand, puisque c'était les 50 ans de sa naissance et les 20 ans de sa mort. Un cycle André Malraux, puisque ça va être les 40 ans de sa mort. Mais nous avons aussi un cycle sport, puisque nous avons l'UEFA.
On va s'arrêter là. Mais c'est vrai que l'UEFA fait beaucoup parler d'elle en ce moment.
Et les Jeux Olympiques.
On va, si vous le voulez bien, s'arrêter là. On va continuer évidemment de parler de votre association, Alexandre Duval-Stalla, avec également Domicile de la Roulière. On va le faire après une pause musicale sur le jeu.
Jusqu'à 11h, la vie des associations sur Vivre FM.
Aujourd'hui sur Vivre FM, dans la vie des associations, ils sont venus à deux pour nous parler de l'association Lire pour en sortir. Il y a Alexandre Duval-Stalla qui est le président et Domicile de la Roulière qui, elle, est la directrice générale. Alors Alexandre, moi j'aimerais qu'on entre dans le dur, j'allais dire, dans le concret. Comment ça se passe quand vous intégrez une prison, en tous les cas quand vous arrivez à la prison, pour proposer des cycles de lecture? Ou des lectures, tout simplement. Je ne sais pas si on parle toujours de cycles.
Alors, on parle effectivement de cycles de lecture. En fait, lorsqu'ils arrivent en détention, chaque personne détenue reçoit une sorte de kit d'arrivant. Et dans ce kit d'arrivant, il y a notamment un prospectus de notre association où on leur explique effectivement les particularités de ce programme et ils peuvent s'y inscrire. Et donc, généralement, ils commencent par ils ont aussi également le bouquin, enfin le le prospectus avec l'ensemble des livres proposés.
En gros, le catalogue.
Voilà, le catalogue.
Hein, qui se limite à un prospectus, mais quand même. Voilà. Il y a, vous me disiez, 280 œuvres, c'est
ça ? Voilà, on a à peu près 280 livres dans le programme. Et du coup, ils peuvent choisir, donc généralement, ils commencent par choisir 3 livres. Ensuite, ce dossier est transmis au SPIP, donc le service d'insertion et de probation, qui va donc nous adresser cette demande. Et nous allons adresser donc le livre qui va être donc apporté à la personne détenue par le bénévole avec une fiche de lecture, puisque nous souhaitons à la fois qu'ils lisent, mais aussi qu'ils écrivent. Que c'est les deux éléments très importants dans la.
Bien sûr, c'est les deux fondamentaux qui permettent effectivement une bonne insertion, voire réinsertion, effectivement.
Tout à fait. Et du coup, il y a donc ce premier rendez-vous avec le bénévole qui lui explique un peu comment les choses vont se passer. Et puis, ils remplissent la fiche de lecture au fur et à mesure de leur lecture, c'est-à-dire qu'il y a une partie à la fois sur l'auteur, des questions sur l'auteur, des questions sur le livre. Ensuite, ils font un résumé du livre, les quelques citations qui les ont intéressés.
Marqués.
Et puis, une dernière page qui est donc une page de réflexion personnelle sur le livre. Et alors, donc, c'est ça qui est le plus intéressant parce que ils vont beaucoup plus se livrer sur à la fois leur manière qu'ils ont eu d'aborder ce livre, les difficultés qu'ils ont pu avoir, mais aussi les petits bonheurs et les joies que le livre leur a apporté.
Alors, il n'y a pas une gêne au départ, parce que vous dites quelques questions sur l'auteur. J'imagine que certaines personnes n'avaient peut-être même jamais mis les yeux sur un livre, véritablement, d'une façon aussi marquée, aussi... vous voyez ce que je veux dire ?
Tout à fait. C'est pour ça qu'on a voulu... En fait, nous, on offre les livres aux personnes détenues, pour qu'ils, d'une certaine manière, ils s'approprient cet objet livre. Parce que c'est très important, je pense que ça fait aussi le succès du programme, c'est que d'une certaine manière, c'est peut-être une des rares choses qu'on va leur offrir en détention. Et donc c'est un livre. Et donc c'est à la fois très très symbolique et très fort. Mais c'est vrai que c'est pour eux une manière, j'allais dire, de s'approprier ce livre, en sachant que nous avons des difficultés. Bien évidemment, chaque livre est noté en fonction de difficultés de lecture. Parce que
Vous dites le livre est noté, on est bien d'accord, c'est le livre qui est noté. Hein, ce n'est pas celui qui va remplir la fiche de lecture qu'on va noter après, qu'on va dire.
Tout à fait, il n'y a pas de note.
Évidemment.
Voilà,
vous êtes dans le plaisir et dans l'intérêt de la lecture.
Tout à fait, l'intérêt de la lecture. Et nous accompagnons effectivement la progression des personnes détenues. Parce que vous avez beaucoup de personnes détenues qui vont commencer par un livre facile et puis qui petit à petit vont prendre des livres de plus en plus difficiles. Et donc nous accompagnons cette progression. Et d'ailleurs, c'est ce que le juge d'application des peines va aussi regarder lorsqu'il va consulter le dossier de la personne détenue pour lui accorder éventuellement des remises de peine supplémentaires. C'est la progression effectivement de la personne qui aura participé à ce programme de lecture pour montrer effectivement qu'il a vraiment été très intéressé au programme.
Alors la personne détenue, elle a donc ce livre en main, hein, elle a désiré avoir ce livre, elle a désiré le lire, donc elle remplit progressivement sa fiche de lecture. Il n'y a pas de temps donné, il y a un moment malgré tout.
Ils peuvent mettre 15 jours comme ils peuvent mettre 6 mois. L'important c'est qu'effectivement ils aillent au bout, j'allais dire, de cet exercice de lecture et d'écriture.
Alors malgré tout, faut un suivi, parce que si vous remettez un livre par exemple à une personne détenue et puis que vous le laissez mariner, j'allais dire, à peut-être un moment donné, ça va bloquer parce que la personne va dire « Ah ouais, finalement, c'était pas pour moi, finalement. » Et puis, il y a des moments de découragement, j'imagine. Enfin bon.
C'est pour ça que le bénévole, parce qu'ils sont à chaque fois accompagnés par un bénévole. Et puis surtout, je crois qu'il y a la magie du livre. C'est-à-dire que, honnêtement, sur toutes les personnes qui se sont inscrites, on n'a pas eu
de défection.
On a simplement eu des gens qui nous ont dit dans la réflexion personnelle que soit c'était effectivement une écriture, notamment pour la poésie un peu vieillotte, qui avait mal passé les
années.
Voilà. Mais ils n'ont pas refusé. Ils ont tout de suite repris un livre derrière, ce qui montre bien qu'effectivement, ils sont dans une dynamique de lecture.
Alors, ça veut dire que le livre, effectivement, il a un intérêt dans tout ça, bien sûr. Mais le bénévole également, il faut qu'il y ait un savoir-faire de la part du bénévole qui ne doit pas être intrusif, mais qui, malgré tout, doit être présent.
Oui, on a voulu effectivement que non seulement, parce que bon, la difficulté pour les personnes détenues, c'est qu'elles restent en gros 22 heures sur 24 dans leur cellule. Elles vont sortir le matin ou l'après-midi pour faire éventuellement une promenade.
Une promenade.
Mais elles vont peu sortir de leur cellule. Et donc, le fait qu'ils soient accompagnés par un bénévole les fait sortir au moins une heure de plus de leur cellule. Et à l'occasion, et le livre, en fait, est un objet de parole, c'est-à-dire un objet de communication qui permet effectivement de discuter et de se rencontrer. Et d'ailleurs, c'est grâce au réseau du Secours catholique, avec lequel nous sommes partenaires, qui est un des plus importants réseaux, le plus important réseau de bénévoles en milieu pénitentiaire, qui accompagne l'ensemble de ces paroles et le Secours catholique, dont d'ailleurs je suis le consultant du département prison-justice, bénévole, a cette volonté effectivement d'aller chercher en fait les personnes qui ont le plus de difficultés, le plus de mal à s'en sortir, et de les accompagner dans cette démarche d'insertion.
Une fois que la fiche de lecture a été faite donc par le détenu, et elle vous est remise, le livre, le détenu le garde, on
voilà,
est d'accord
effectivement, chaque détenu garde les livres qui lui sont offerts, et ensuite on leur renvoie, lorsqu'ils ont terminé la fiche de lecture, un deuxième livre, celui qu'ils ont choisi, avec une fiche de lecture, et là encore une fois, le cycle continue. On a ouvert donc notre premier lieu d'expérimentation à Châlons-en-Champagne en juillet dernier, et on a déjà une personne, une femme, qui en est à son 12e livre et fiche de lecture rendue.
Et dans ces cas-là, quel est le rôle du bénévole? Conseiller la prise en main la connaissance d'un nouveau livre, éventuellement lire. Est-ce que le bénévole lit de temps en temps lui-même avec le détenu? Comment ça se passe?
Alors, c'est vrai que il y a différents niveaux de lecture, donc différentes approches que le bénévole a avec une personne détenue. Quand il y a une difficulté d'écriture, comme c'est souvent le cas, on sait qu'en détention, il y a énormément de personnes qui ont du mal à écrire. Donc, dans ces cas-là, le bénévole va aider à écrire ou parfois va écrire à la place de la personne détenue quand elle va exprimer à l'oral ce qu'elle a ressenti à travers le livre. Et pour les personnes qui écrivent très bien, qui lisent beaucoup, qui me challengent aussi dans les choix des livres, parce qu'il faut toujours leur trouver quelque chose de mieux à lire derrière. Dans ces cas-là, c'est toujours aussi une idée de progression dans la réflexion, dans la thématique la plus importante du livre. Et donc là, en effet, le bénévole accompagne, mais de manière peut-être plus théorique,
théorique
que sur la pratique.
Peut-être aussi un petit peu plus humaine, j'allais dire, c'est un peu bravo, t'as réussi. Hein. Évidemment, on ne lui dit pas comme ça, mais je pense que ça doit jouer aussi. Hein, à savoir, à partir du moment où on sent que le niveau se hausse, il faut savoir le dire aussi.
Oui, puis de toute façon, en dehors de l'aide même de la rédaction d'une fiche de lecture ou de la compréhension du livre, il y a tout ce que le livre apporte et tout ce que la personne détenue veut dire, tout ce qu'elle a ressenti dans sa propre vie à travers l'histoire du livre.
C'est Domicile de la Roulière, pardon, que vous entendiez à l'instant. Elle est la directrice générale de Lire pour en sortir. Elle est accompagnée d'Alexandre Stalla-Duval, que nous allons retrouver après une pause musicale.
Jusqu'à 11h, la vie des associations sur Vivre FM.
Bienvenue dans la vie des associations sur Vivre FM. Nous rencontrons l'association Lire pour en sortir et son président Alexandre Duval-Stalla et sa directrice générale, Domicile de la Roulière. Alors Alexandre, Domicile, j'aimerais qu'on parle des bénévoles parce qu'ils sont, ils sont importants hein, dans le maillage que vous formez.
Ils sont essentiels effectivement dans notre dispositif puisque nous attachons effectivement une grande importance à cette relation, j'allais dire, humaine entre le livre, le bénévole et la personne détenue. Et bien évidemment, le livre n'est pas quelque chose qui nous retire de la société, mais au contraire qui nous y aventure encore plus.
C'est ça. Mais pour ça, faut être aidé. Parfois, ben justement, parmi les détenus, parfois il y a des justement des personnes qui ont été en échec scolaire ou
voilà, il y a des difficultés de lecture ou des gens que tout le monde pourrait connaître mais qu'ils ne connaissent pas. Et donc, c'est une manière aussi de faire découvrir, d'attiser la curiosité des personnes détenues sur un certain nombre d'auteurs et de livres qui font partie de notre patrimoine commun. Et on le voit d'ailleurs dans le choix des livres, beaucoup choisissent des grands classiques.
Oui, j'allais dire, il y a des choix majoritaires déjà qui se dessinent en dépit de la jeunesse de votre association. Vous pouvez déjà pointer justement quelques œuvres majoritaires qui sont très souvent demandées.
Alors c'est vrai que le cycle grand classique fonctionne très bien. Hein. Je pense qu'il y a cette volonté aussi peut-être de rentrer dans cette communauté culturelle, puisque généralement au collège, ils n'ont pas lu les Madame Bovary, etc. Donc c'est l'occasion pour eux de se lancer ces défis, de lire des grands classiques. On a aussi beaucoup de cycles débutants. Il faut se rappeler quand même que 27% de la population pénale a de grosses difficultés de lecture. Donc on a des bandes dessinées et des cycles débutants qui fonctionnent très bien.
Ça c'est bien. La bande dessinée, vous avez constaté que parfois ça amène au livre après ou,
oui, bien
ou,
sûr. Déjà en fait, il y a différentes sortes de bandes dessinées. Il y a les bandes dessinées classiques qu'on imagine et puis il y a des bandes dessinées qui ressemblent déjà un peu plus au livre, avec un petit peu plus d'écriture. Donc ça amène vers des petits livres comme L'homme qui plantait des arbres de Junot qui fait 30 pages et qui est vraiment un premier pas dans la lecture.
C'est une belle ouverture.
Voilà, et puis les deux autres cycles qui ont marché très bien cette année, c'était le cycle 70e anniversaire de la Libération. Les Romain Gary, Joseph Kessel fonctionnent très bien, et le cycle contemporain aussi, avec Anna Gavalda, Delacour, voilà, ça fonctionne très bien.
Alors, donc, je le disais, on le disait à l'instant, évidemment, les bénévoles sont extrêmement importants. Si je vous demande si vous en avez assez, vous me direz que non.
Alors, on en cherche effectivement toujours. Il y en a certains où on a beaucoup de bénévoles, comme notamment à Nice ou à Fresnes. Mais en revanche, dans la région Est, dans la région Sud-Ouest, notamment de Mont-de-Marsan, on a besoin effectivement de bénévoles.
Ouais.
Il faut savoir que c'est une activité assez enthousiasmante et très très vivante, puisque effectivement, on découvre en fait un monde qu'on ne connaît pas forcément, qui est le monde carcéral.
Et c'est
on,
ça.
Et on
ça,
voit que finalement, l'image qu'on peut en avoir est différente de celle qu'elle est exactement, parce qu'il faut quand même réaliser que, en gros, 70% de la population carcérale sont des gens qui sont condamnés pour des vols, des violences ou du stupéfiant, et pour moins de 3 ans. Donc c'est vraiment de la petite délinquance qui est, j'allais dire, l'amortisseur des questions économiques et sociales de notre société, et non pas ces dangereux criminels qu'on voit à la télé ou dans les séries américaines.
Oui, donc on ne doit pas avoir peur d'aller voir...
Non seulement on ne doit pas avoir peur, et puis surtout, moi je considère que c'est d'une certaine manière nos enfants, c'est-à-dire que ces gens qui ont moins, en gros, entre 18 et 35
sont
ans...
Sont plutôt jeunes, oui.
Sont très jeunes, et puis il faut aussi leur donner leur chance parce qu'ils ont toute leur place dans notre société. Donc soit... On le dit définitivement qu'on les parque d'un côté et puis ça nous fera des
oui, on sait ce que ça deviendra plus tard, hein, effectivement.
Voilà. Soit effectivement, on essaye de faire des choses et je pense que les bénévoles pour ça sont assez importants parce que d'abord, ils comprennent en fait les difficultés de la vie, la fragilité de la vie et la nécessité effectivement de s'investir dans cette relation fraternelle pour aider la personne finalement à être ce qu'elle doit être au fond d'elle-même. Et ce qu'elle doit être au fond d'elle-même, c'est pas forcément un délinquant, mais c'est au contraire quelqu'un qui a toute sa place dans la société civile.
Quel est le profil souhaité du bénévole que vous voulez voir arriver jusqu'à vous et aller vers les détenus pour des cycles de lecture?
Toutes les bonnes volontés, bien évidemment, sont les bienvenues. Il n'y a pas de profil type. Et pour le coup, vraiment, chaque personne qui a envie de donner un peu de son temps, qu'il soit professeur ou pas, retraité ou pas retraité, étudiant ou pas étudiant, mais qui a envie de pouvoir passer une heure ou deux par semaine, effectivement, et donner de son temps, et le bienvenu dans notre association.
Oui. Alors malgré tout, il y a quand même il faut obéir à, comment dirais-je, à certaines règles. Tout le monde ne peut pas aller jusqu'au détenu, je veux dire. Par exemple, il faut avoir un casier judiciaire vierge, c'est ça?
Alors, en effet, pour compléter, il faut vraiment se dire qu'il y a deux évidences et qui sont partagées avec le Secours catholique. Il y a l'évidence du livre et il y a l'évidence de la rencontre. Et donc, la rencontre, elle est essentielle et donc le bénévole est essentiel au fonctionnement de cette association. En effet, c'est ouvert à tout le monde, le bénévolat, c'est par principe, c'est volontaire et donc on ne rejette personne. Évidemment, ça n'est pas possible quand on a un casier judiciaire et quand on a quelqu'un de sa famille qui est dans l'établissement pénitentiaire. Donc ça, en effet, ce sont les deux limites. Après, en réalité, ça prend une demi-journée toutes les deux ou trois semaines, donc c'est pas forcément très très important en temps, mais ça apporte beaucoup. C'est très très important dans la relation avec le bénévole. Ça lui permet aussi de ne pas se séparer de la société, de continuer à parler, de continuer à échanger. Et donc aussi, on le voit au fur et à mesure dans les fiches de lecture que l'on reçoit, petit à petit, la vie personnelle grossit. Il y a de plus en plus de choses qui sont écrites parce qu'ils prennent confiance. Et cette confiance, elle se joue aussi avec le rapport avec le bénévole.
Et le bénévole, il est là pendant combien de temps? Comment ça se passe concrètement, une séance avec un détenu?
Alors déjà, il s'engage sur au moins une année parce qu'il faut quand même assurer un suivi. Donc généralement, c'est l'année scolaire puisqu'il y en a beaucoup qui prennent les vacances scolaires. Et ensuite, il vient au rythme qui est le sien. Donc idéalement, c'est plutôt une fois par semaine, mais s'il peut venir qu'une fois par mois, il viendra qu'une fois par mois, c'est pas grave.
D'accord.
Et donc voilà, il rentre en détention, il va rencontrer les différentes personnes qu'il suit, donc il a généralement une à deux heures de parloir.
D'accord. Donc à peu près une heure par personne détenue, c'est ça?
On essaye de faire effectivement une heure par personne détenue, voire quand il y a beaucoup de personnes qui sont dans le programme, plutôt une demi-heure par détenu. Oui.
Et donc une fois par semaine.
Et donc, à peu près une fois par semaine, oui. L'idée, c'est effectivement d'avoir un échange de manière régulier et fréquent, parce que, bien évidemment, ça permet d'engager une relation humaine beaucoup plus intéressante.
Nous sommes avec l'association Lire pour en sortir. Alexandre Duval-Stalla ainsi que Domitien de la Roulière sont avec nous pour nous parler de cette association. Ils vont continuer de le faire après une pause musicale sur Lire.
Jusqu'à 11h, la vie des associations sur Vivre FM.
Il nous reste quelques minutes à passer en compagnie de l'association Lire pour en sortir. Et ils sont venus à deux pour nous présenter l'association, Domitien de la Roulière et Alexandre Duval-Stalla. Alexandre, faudrait peut-être parler des mécènes dont vous avez également grand besoin, j'imagine.
Oui, nous avons grand besoin des mécènes et ils sont à la fois au soutien et très présents et nous leur remercions. Nous avons donc notamment la fondation Aéroport Groupe ADP,
Aéroport de Paris.
Nous avons la Fondation Lagardère, nous avons la Fondation de l'Échiquier, la Fondation M6, nous avons également le ministère de la Justice qui nous soutient, et puis avec l'administration pénitentiaire, et puis bien évidemment le Secours catholique qui nous aide dans cette démarche, dans cette association.
Vous avez des partenaires qui vous fournissent les livres également ?
Alors nous avons en fait un système très particulier, c'est que nous faisons confiance aux libraires indépendants. Moi qui suis écrivain, je suis très attaché à la librairie indépendante qui garantit le fonds éditorial
du livre français.
Et donc nous avons à chaque fois un libraire qui est lié avec un établissement pénitentiaire. Et donc c'est lui qui va assurer la logistique des livres et donc c'est à lui qu'on achète les livres directement. Et donc nous ne bénéficions pas de promotion particulière des éditeurs parce que nous ne le souhaitons pas. Ce que nous souhaitons, c'est effectivement être partenaire de ces librairies indépendantes qui sont extrêmement importantes pour le livre.
Alors vous agissez pour l'insertion, la réinsertion des détenus et également la réinsertion ou l'insertion professionnelle.
Tout à fait, parce que c'est un peu la dernière étape, c'est-à-dire que je dis souvent, pour beaucoup, une petite copine, un logement et puis un travail, on a résolu presque 95% des
problèmes. C'est vrai, vous fournissez les petites copines ?
Malheureusement non, mais je pense qu'effectivement, on ne comprend pas les questions de récidive et les questions pénales si on ne comprend pas qu'il y a un environnement à la fois affectif, scolaire, professionnel, qui est extrêmement important. Et donc, c'est pourquoi une des missions importantes de notre association, c'est effectivement la formation et l'insertion professionnelle, qui est, j'allais dire, le premier pas à la fois pour lire, parce que, bien évidemment, sans travail, le livre ne sert pas à grand-chose dans une vie économique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et donc, c'est extrêmement important qu'il puisse avoir accès à ça.
C'est ça.
Et dans ce cadre-là, nous, ce que nous avons mis en place, c'est que nous partons effectivement des lieux dans lesquels nous sommes pour regarder le bassin d'emploi et les entreprises qui éventuellement veulent être partenaires. Donc nous, pour l'instant, nous sommes au début de cette mission. Mais notre idée, c'est effectivement de pouvoir regarder quelles sont les entreprises qui seraient prêtes localement à offrir des emplois à ces personnes qui sortent des détentions pour éviter les sorties sèches et du coup pour éviter la récidive.
Et vous, par là même, vous seriez prêt à accompagner donc ces personnes qui recouvreraient la liberté, vous seriez prêt à les accompagner jusqu'à l'emploi ?
Tout à fait. L'idée, c'est à la fois qu'ils aient une formation en interne, c'est-à-dire qu'on puisse développer le travail en prison, ce qui est toujours très délicat pour des questions d'organisation, pour des questions de coûts également, et donc les aider effectivement à avoir des formations, ne serait-ce que se présenter un entretien d'embauche, faire un CV, enfin des choses très basiques, enfin qui semblent très basiques pour ceux qui sont dans le monde du travail et de l'emploi, mais qui sont plus compliquées pour ceux qui en sont plus éloignés, et puis ensuite effectivement d'offrir des emplois, alors peut-être d'abord des emplois, j'allais dire, de qualification, des emplois plutôt courts, 6 mois, 1 an, 2 ans, et puis qui leur donnent, mettent le pied à l'étrier pour effectivement avoir un emploi plus pérenne. Et donc, tout ça, nous le faisons en lien avec des entreprises locales.
Parce qu'il faut le répéter, la liberté, effectivement, sans emploi, la liberté, sans personne au bout, ça n'existe pas, ça ne veut rien dire. Hein, parce que ça peut même faire peur, la liberté, d'ailleurs, si on la voit comme ça.
C'est-à-dire que le pire, et toutes les études et statistiques le démontrent, c'est les sorties sèches. On ne résolvera pas la question de la délinquance si on multiplie les sorties sèches. Il faut que les gens soient accompagnés.
Sorties sèches, ça veut dire effectivement, bon, ça y est, c'est l'heure de sortir, hop, voilà, on vous libère et on vous laisse dans la nature.
Voilà, aucun accompagnement a été fait, aucun aménagement de peine n'a été proposé, et du coup, ils sortent dans la nature. Donc, s'ils n'avaient pas résolu leurs problèmes en entrant en détention, c'est pas en sortant de détention qu'ils
bien
auront
sûr,
résolu
et puis
leur
surtout
problème.
Que la vie aura pu changer, même en quelques mois, on n'est plus habitué aux mêmes choses. Enfin bon, la
et
liberté,
puis surtout,
ça
c'est extrêmement, le passage en détention est extrêmement déstructurant pour la famille, déstructurant pour une vie professionnelle, déstructurant pour une vie culturelle également.
Donc, effectivement, ça veut dire que là vous cherchez également des partenaires en entreprise, des chefs d'entreprise qui...
Voilà, des chefs d'entreprise, j'allais dire militants, qui comprennent que ce qui est important dans notre société, c'est effectivement de pouvoir s'aider, j'allais dire, et s'entraider les uns les autres. Je pense que le terme de fraternité dans notre devise républicaine a encore un sens, et c'est cette fraternité, d'une certaine manière, professionnelle que...
C'est grâce à la fraternité qu'on atteindra la liberté.
Notamment.
Ah, la vraie.
Et la vraie liberté, elle passe effectivement à la fois par une dimension intellectuelle et culturelle, de savoir ce pourquoi on est fait, et elle passe aussi par une insertion professionnelle.
Alors, on rappelle que vous cherchez des bénévoles. Évidemment, là, c'est pareil, vous ne laissez pas ces bénévoles dans la nature, vous les formez. Il y a une formation préalable, j'imagine?
Tout à fait. Il y a 2 jours de formation qui est donc offerte à chaque bénévole pour à la fois comprendre les contraintes du milieu pénitentiaire et puis pour comprendre aussi notre programme, comment agir et comment...
Vous sentez qu'il y a des liens qui se tissent à l'intérieur des prisons, justement, quand les bénévoles rencontrent les détenus, ça, on le sent déjà, ça se voit, ça se sent.
C'est assez intéressant, parce qu'on parle du lien entre, par exemple, bénévoles, personnes détenues, ou surveillants, personnes détenues, ou personnes détenues à personnes détenues, le lien est très intéressant. Alors, on est en train, justement, de faire des statistiques, pour utiliser le terme, pour savoir, justement, ce que la lecture apporte, en plus de l'apport bénéfique à la personne détenue, ce que ça apporte dans le comportement général entre ces personnes-là en détention. Et tout ce qui se passe jusque-là nous fait penser qu'en effet, il y a une certaine, il y a un calme qui est plus important. Il y a aussi une meilleure compréhension entre les personnes. Il y a aussi une grande entraide entre les personnes détenues. Moi, je pensais qu'ils avaient plutôt se piquer les livres, mais au contraire, ils se les prêtent, ils cèdent quand c'est nécessaire à écrire, etc. Donc,
grâce au livre-objet et grâce à ce qui est écrit dedans, j'allais dire, ouais. C'est un tout, hein.
C'est effectivement un tout et c'est pour ça aussi qu'on a d'excellentes relations avec les enseignants qui travaillent en milieu pénitentiaire parce qu'on est vraiment, partenaires, notamment dans la lutte contre l'illettrisme, qui est un chantier très important mené par l'administration pénitentiaire. Et donc, nous aidons en fait les enseignants grâce à des livres d'accès et de sortie de l'illettrisme pour ce grand chantier qui est la lutte contre l'illettrisme.
Pour l'instant, vous êtes en possibilité malgré tout de suivre certains détenus qui le demandent après qu'ils soient libérés?
Alors oui, on a effectivement des demandes de personnes qui sortent en aménagement de peine et qui demandent à continuer à lire et nous les accompagnons.
Très bien. Eh bien, pour qu'on en sache davantage encore sur l'association, je suis sûr qu'on devrait savoir aussi ce que ça apporte aux bénévoles. Ben, vous reviendrez pour nous dire tout ça. Mais avant de revenir, faut partir. Mais avant de partir, donnez les coordonnées de l'association.
Alors, les coordonnées de l'association, on a donc un site internet qui s'appelle www.lirepourensortir.org. Sur lequel il y a effectivement l'ensemble de nos coordonnées et toutes les différentes missions que nous pouvons avoir.
Parfait. Merci Alexandre Duval-Stalla. Merci également à Domicile de la Roulière d'être venu nous présenter Lire pour en sortir.
Merci Benjamin Moreau.